qui effectue ses études de théologie à l'Uni de Oxford. C'est un jeune homme ambitieux, un petit peu sûr de lui-même, très intelligent, et bien évidemment, comme tous les jeunes, il a l'impression de tout savoir, ou très souvent, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, je suis désolée, Néo, mais très souvent, c'est un peu la pression que, voilà, ils ont la capacité, ils savent un peu tout ce qui fait partie de la jeunesse, et c'est pas du tout péjoratif, négatif, bien au contraire. Un jour, il se retrouve dans la ville devant un hôtel, et là, il rencontre un portier. Et celui-ci gagne durement son pain quotidien. Il vit dans une grande précarité. Il n'a ni lit, ni maison. Mais cet homme d'âge mûr affiche un grand sourire sur ses lèvres. Étonnamment, il est rempli de gratitude envers la bonté divine. Le jeune homme, quant à lui, se moque de lui, ne comprend absolument pas pourquoi est-ce qu'il est reconnaissant. Je fais lecture du psaume 103. Que toute mon âme loue l'Éternel, que tout ce que je suis loue le Dieu Saint. Que tout mon être loue l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour, et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, l'aigle prend un nouvel essor. L'Éternel intervient pour redresser les torts et il défend les droits de tous les opprimés. Il a manifesté à Moïse et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est plein de pitié et de miséricorde. Plein de pitié et miséricordieux, pardon. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos péchés. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu dépasse tous ceux qui le révèrent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse pour ceux qui le révèrent. Il sait de quelle pâte nous sommes façonnés. Il se rappelle bien que nous sommes poussière. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe, à une fleur des champs. La voici qui fleurit. Qu'un vent souffle dessus, la voilà disparue. Le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. L'Éternel, ton amour est là depuis toujours et durera toujours pour ceux qui te révèrent. Ta loyauté demeure à l'égard des enfants de leurs enfants. Elle est pour ceux qui restent fidèles à ton alliance, pour ceux qui se souviennent de tes commandements pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône. Il est le roi, le maître de l'univers entier. Louez donc l'Éternel, ses anges vaillants et forts, qui faites ce qu'il dit dès qu'il vous le demande. Oui, louez l'Éternel, ses armées célestes, vous qui, à son service, exécutez sa volonté. Oui, louez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Que tout mon être loue l'Éternel. Fin de la lecture. Le psaume 103 est un vrai chef-d'œuvre. C'est l'un des plus beaux psaumes. Il est également surnommé le Sonum. Ce psaume de louange amène notre âme dans les hautes sphères spirituelles. Il nous élève près de Dieu. Notre âme ne peut que le louer et l'adorer. C'est un bijou, un modèle pratique pour chacun d'entre nous. Dans ma lecture, j'ai fragmenté le psaume 103 en quatre parties par un court temps de pause. Première partie, mon âme bénit l'Éternel. Deuxième partie, les bontés, les bienfaits de l'Éternel. La troisième partie, louange et obéissance à l'Éternel. Et la quatrième, bénissez l'Éternel. C'est un rond qui se suit et qui se finit. On commence par « Mon âme bénit l'Éternel » et ensuite « Bénissez l'Éternel ». La première partie, « Mon âme bénit l'Éternel ». La plupart des psaumes s'adressent directement à Dieu ou à une communauté. Ici, David s'adresse ni à l'un ni à l'autre. Il s'adresse à son âme, il s'adresse à sa propre personne, il parle à la partie la plus intime de sa personne. Que tout mon être bénisse l'Éternel, que tout ce que je suis bénisse le Dieu Saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. À trois reprises, David s'exhorte à bénir l'Éternel. Il s'encourage à célébrer les bienfaits de Dieu, à le louer, le remercier pour ses bienfaits. Que tout mon être bénisse l'Éternel, que tout ce que je suis bénisse le Dieu Saint. En tout cas, pour ma part, quand je ne vais pas bien, si je dis ça, ça me booste. Ça m'aide à me focaliser de nouveau au bon endroit. Et c'est une phrase extrêmement forte de sens. Que tout mon être, tout ce que je suis, il ordonne à son être entier, tout ce qui est à l'intérieur de lui, de bénir le Seigneur. C'est-à-dire, il parle à ses tripes, à ses pensées, à son cœur et à toutes ses cellules. Toutes les cellules qu'il a dans le corps, il ordonne de bénir l'Éternel et de se focaliser sur Dieu. Que signifie le verbe bénir? Du latin benedicere, c'est-à-dire dire du bien de. C'est louer, adorer et remercier Dieu pour ses bienfaits. Se réjouir profondément de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Ce psaume chante l'amour de Dieu pour ses créatures. En d'autres termes, c'est une proclamation de la grâce divine dans toute sa richesse. C'est de cette manière que nous sommes appelés à louer et à bénir notre Dieu trois fois saint. Deutéronome 6:5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commentateurs bibliques Maillot et Lelièvre, je ne sais pas si vous lisez des commentaires, vous les avez peut-être déjà vus passer, ont fait un parallèle qui est assez intéressant, je trouve. Ils disent, pour l'Israélite, l'homme est un moi et l'homme est un toi. Le moi, c'est l'adorateur, celui qui aime le Seigneur, qui le cherche de tout cœur, qui se souvient de ses bienfaits. Et le toi, c'est l'incrédule, celui qui délaisse la bonté divine, celui qui oublie. Le moi est donc notre vraie personne, celle qui a été régénérée par l'Esprit de Dieu. Celui qui veut se souvenir, celui qui veut ne pas oublier, le moi a le pouvoir sur le toi. C'est comme la chair et l'esprit, dit différemment. D'une manière moins philosophique, l'être humain est par définition un être ingrat. Si vous êtes fait de la même pâte que moi, je peux dire, nous sommes de nature ingrate. Nous nous plaignons très souvent pour un oui et pour un non. Nous nous focalisons sur ce qui nous manque et nous oublions les bienfaits que Dieu nous offre. Nous sommes si vite oublieux. C'est la raison pour laquelle Dieu demande à son peuple de se commémorer, de se rappeler de génération en génération ce qu'il a fait. Faites ceci en mémoire de moi. Rappelez-vous la scène. N'oubliez surtout pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu, celui qui vous a fait sortir d'Égypte. Combien de miracles ai-je vu dans ma propre vie ? Combien de miracles as-tu vu dans ta propre vie ? C'est la raison pour laquelle il est important de les noter pour pouvoir se rappeler. Ou il est important de les partager, partager les réponses à nos prières. En faisant ça, nous témoignons de la bonté de Dieu. Ça fait partie de notre vie et ça nous aide à ne pas oublier. De plus, en partageant ce que Dieu fait ou ce que Dieu a fait dans notre vie, on se rappelle, on glorifie Dieu et on aide nos frères et sœurs qui se disent ben, « si Dieu a fait ça pour lui ou elle, ben, il peut aussi le faire pour moi ». Ça augmente notre foi. Quels sont les bienfaits que David mentionne ? Il pardonne tous tes péchés. Il guérit toute maladie. Il t'arrache à la tombe. Il te couronne de tendresse et d'amour. Il te comble de bonheur tout au long de ton existence. Il te fait rajeunir comme l'aigle. Il te donne un nouvel essor. Le moi parle au toi. Lamentations 3:22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Deuxième partie. Les bontés et la bienveillance de l'Éternel.
Salut.
Salut.
Et qui es-tu, toi ?
Celui sans qui tu n'existerais pas.
Pardon ?
Celui sans qui tu n'existerais pas.
C'est-à-dire ?
Devine.
Tu n'es pas Dieu quand même.
Ben si.
Mais ça ne pouvait pas mieux tomber. J'ai plein de questions pour toi.
Eh ben moi aussi.
Et je peux commencer ?
D'accord.
Voici donc ma première question. Qu'est-ce que cela signifie ? Être Dieu.
Être Dieu, c'est une grande question. Cela signifie que je contiens en moi une puissance d'existence qui ne dépend de rien d'autre que de moi-même pour exister. J'existe de toute éternité sans devoir mon existence à qui que ce soit. Tu comprends ?
Non.
Bon, c'est un bon signe.
Et pourquoi ?
Parce que la première chose que tu dois comprendre quand tu parles de moi, c'est que si tu te situes sur un terrain qui te dépasse complètement, la première chose à comprendre quand on parle de Dieu, c'est qu'il nous dépasse. Il est bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, penser, réfléchir. Il est tellement plus grand. Il nous dépasse. C'est ce qu'on appelle la transcendance. Psaume 145, 3. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Vos pensées ne sont pas mes pensées, mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Ça se trouve dans Ésaïe 55, 8-9. Comprendre à nouveau que Dieu nous dépasse complètement nous remet à notre place en tant que créature. Cela nous change notre manière de concevoir qui est Dieu. Cela change notre manière de le craindre et de l'approcher. Dieu est bien au-dessus de toute chose. Dieu nous dépasse, c'est vrai. Mais c'est également vrai qu'il est un père qui connaît ses enfants. C'est vrai qu'il aime être connu personnellement et intimement par ceux-ci. David a connu Dieu. Le verbe connaître est le même verbe que Adam connut Ève. Donc, il y a ce connaître intime qui est là. Dieu est celui qui redresse les torts. Il défend les droits des opprimés. Il est rempli d'amour et de compassion. Ésaïe 49, 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi je ne l'oublierai pas. Dieu fait grâce. Il se plaît à répondre aux besoins de ses enfants. Il est lent à la colère, c'est-à-dire sans rétribution immédiate. Si vous connaissez bien votre parole de Dieu, vous dites, ouais, bon, c'est pas toujours le cas. Si on prend l'exemple d'Ananias et Saphira, il y a une rétribution immédiate. Ils ont monté au Saint-Esprit, schlac, l'un comme l'autre, irradiés. Mais ça, ce n'est pas la règle générale. En règle générale, Dieu est patient et long à la colère. Il est riche en bienveillance. Sa grâce et sa bonté sont colossales. Sa bonté n'a pas de limite. Dieu ne nous punit pas selon nos péchés. Bien au contraire. Et la troisième partie, louange et obéissance à l'Éternel. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire, pour voir ta force et ta gloire, car ta beauté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, ainsi je te bénirai toute ma vie, je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Psaume 63, 1 à 5. Le terme louange de l'hébreu halal contient l'idée de faire du bruit. La louange est une expression de joie, faire du bruit joyeux. Dieu est notre plaisir. Nous lui rendons gloire en l'honorant. La louange implique une communion intime avec celui qui est loué. Quelle est la différence entre louer et adorer? Je suis persuadée, le groupe de louanges pourrait bien plus expliquer et apporter une prédication sur ce sujet que moi, du fait que ça fait de nombreuses décennies qu'ils nous entraînent dans la louange, et c'est un sujet qu'ils maîtrisent beaucoup mieux que moi. Mais quelle est la différence entre louer et adorer? Louer Dieu, c'est offrir à Dieu le fruit de nos lèvres, qui confesse son nom, l'exalter, le glorifier, faire du bruit. La louange est donc inclue dans l'adoration. Mais l'adoration, à mes yeux, va bien plus loin. Adorer, c'est se mettre dans une attitude de soumission, se prosterner devant Dieu. C'est lui obéir et le contempler dans sa gloire. Ésaïe 25, 1. Éternel, tu es mon Dieu, je proclamerai ta grandeur, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Dieu est amour. Son amour circule en lui de toute éternité et pour toute l'éternité. L'amour de Dieu circule en lui de toute éternité et pour toute l'éternité. Dieu se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de notre amour. Il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de recevoir quoi que ce soit de notre part. Il a tout. En Dieu, tout est là. Et ce, depuis toujours, du fait qu'il est trinitaire de toute éternité. Il est Dieu. Et le propre de Dieu, c'est de ne manquer de rien. Il n'a aucun besoin. Par contre, nous, ces créatures, Nous avons infiniment besoin de lui. Nous avons infiniment besoin de son amour. Et nous voyons dans le monde qui nous entoure, avec les catastrophes qui arrivent les unes après les autres, tous ces gens qui errent sans savoir où ils vont, tous ces gens qui perdent l'espérance, qui ne savent plus quel est le sens de la vie parce qu'ils n'ont pas ce soutien que nous, nous avons. L'amour de Dieu est inconditionnel pour celles et ceux qui font alliance avec lui. C'est-à-dire celles et ceux qui l'aiment et qui le révèrent et lui obéissent. Le thème révère est mentionné 3 fois dans notre texte, au verset 11, 13 et 17. En français courant, j'ai exprès choisi une traduction que, en tout cas pour ma part, je connais moins bien. Ça veut dire craindre, simplement avoir la crainte de Dieu. Cette crainte n'est pas une frayeur. L'idée, c'est pas de trembler devant Dieu de peur. Non, mais d'avoir la conscience de qui Dieu est. Dieu est un Dieu de sainteté. Notre conduite doit refléter son caractère. Soyez saints, car je suis saint. 1 Pierre 1,17. Si c'est comme un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Deutéronome 4,23. Veillez bien à ne pas oublier l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a conclue avec vous et à ne pas faire de sculpture sacrée, de représentation quelconque, que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. Plus nous serons au plus profond de notre être, dans notre corps, cœur et dans notre corps, conscients de l'amour de Dieu, de sa bonté, de sa bienveillance, de ses compassions envers chacun de nous, plus nous aurons un profond respect de qui Dieu est. Et plus nous aurons envie de lui plaire, nous aurons envie de le louer, nous aurons envie de l'adorer, nous aurons envie de faire sa volonté. Proverbe 4, 20 à 21. Mon fils, j'ai rajouté ma fille, sois attentif, attentive à tes paroles. Tends l'oreille vers mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. Dieu s'est racheté un peuple. En retour, il attend notre obéissance. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang d'une alliance éternelle, qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. L'homme est peu de choses. Poussière. Tu retourneras à la poussière. Soyons humbles de cœur, rapides à nous repentir, maniables, obéissants et ouverts à l'action de Dieu dans notre vie. Je reviens à mon histoire sur l'arrogance de ce jeune homme. Celui-ci est quand même intrigué par le discours du portier. Il lui demande avec un brin de sarcasme, « Mais pour quelle raison est-ce que toi, tu remercies Dieu ?» L'homme sourit et lui dit avec beaucoup de tendresse, « Je le remercie car il m'a donné la vie, la santé et un cœur pour l'aimer. » Et par-dessus tout, un constant désir de le servir. Cette rencontre a profondément touché et transformé le jeune homme. Bien des années plus tard, alors qu'il est à l'aube de son dernier souffle, il entend un cantique. « Je prierai mon Créateur tant que je respirerai. » Savez-vous qui était cet homme ? Il s'agit de John Wesley, un grand théologien anglophone qui a fondé l'église anglicane. Quatrième partie. Bénissez l'Éternel, ces anges qui obéissent à la voix de sa parole, ses serviteurs obéissants, son armée, sa création. Dieu est au centre de l'univers. Il reçoit l'adoration de toute la création. Psaume 95:6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9 à 10. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône. Il est le roi, le maître de l'univers tout entier. Nous devons apprendre, en tout cas je dois apprendre, que les cieux dominent sur ce que nous vivons ici-bas. Nous devons recevoir des révélations du ciel, des révélations de Dieu, le ciel sur la terre. Ces révélations nous permettent d'entrer pleinement dans le surnaturel que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous, le royaume de Dieu. Comme nous le prions dans la prière si connue, le Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que de bonheur et de bénédiction se trouvent dans les cieux. Louez donc l'Éternel, vous tous ces gens, ces anges vaillants et forts, qui faites ce qu'il dit dès qu'il vous le commande. Oui, louez l'Éternel, vous toutes ces armées célestes, vous qui, à son service, exécutez sa volonté. Oui, louez l'Éternel. Bienvenue, madame. Oui, louez l'Éternel, toutes ces créatures partout où il gouverne. Louez l'Éternel. Amen.